Bien, je vais donc terminer cette journée en déportant le regard vers des périodes beaucoup plus récentes pour illustrer vraiment à grands traits, puisque l'époque est longue et le matériau serait surabondant, la diversité des écritures au sein de l'alphabet latin, hein, cet alphabet qui nous paraît tellement unique, uniforme et transparent, tellement nous sommes habitués à le voir, mais qui en réalité, au cours de son histoire et même au sein de chaque période, pendant la plus grande partie de son existence, a manifesté de très fortes tendances à la diversité morphologique et fonctionnelle. Les études paléographiques se sont surtout concentrées sur la diversité des écritures pendant l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Donc tout cela je le laisse de côté, hein, puisque je considère que c'est ce qui est le plus connu, au moins dans la littérature générale sur le sujet. Ce qu'on constate, tiens, qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a des choses bizarres qui s'affichent au milieu, c'est pas grave.
Pardon ?
Ah oui, voilà. Donc simplement, ici vous avez un tableau très général de l'évolution de l'écriture latine, en gros depuis ses origines étrusques tout en haut à droite, jusqu'au XIXe siècle en bas. Vous voyez, hein, je n'entre pas dans les détails, une très grande diversité pendant en particulier le haut Moyen-Âge ici, hein, toute la période qui succède à la fin de l'Antiquité. Ensuite un resserrement, un carrefour ici, à partir de l'époque de Charlemagne, en gros, hein, où la diversité des écritures se réduit à l'unité dans une grande partie de l'Europe, essentiellement à ce qui constitue politiquement l'Empire carolingien, la réduction à une écriture homogène qu'on appelle la minuscule caroline, et à partir de là, une nouvelle diversification, hein, qui se manifeste dans les siècles suivants. Donc, entre le IXe et le XIe siècle, en gros, nous avons cette unification, hein, sur la base de la minuscule caroline, dont on a vu les avatars britanniques, hein, dans les îles britanniques à l'instant. Et à partir du XIIe et XIIIe siècle, donc, nous avons à nouveau un foisonnement croissant, une diversité des écritures, qui est en particulier une diversité fonctionnelle, hein, qui se manifeste, de pair avec le développement d'une multiplication des usages de l'écrit et de ses fonctions plus diverses dans un contexte qui est celui de la naissance des universités, de la formation d'appareils administratifs, le développement du commerce, hein, donc tout domaine qui donne naissance, hein, ou donne forme à des écritures de plus en plus variées, allant, et c'est un des axes selon lesquels on peut lire ce tableau, de niveau extrêmement formel. C'est ce que vous avez ici à droite avec les écritures qui sont propres aux inscriptions solennelles. Autre niveau, des niveaux de formalité élevés utilisés dans l'écriture livresque, hein, c'est ce que vous avez au centre du tableau, et puis des niveaux plus informels. C'est tout le domaine qu'on appelle, d'un terme problématique, celui des écritures alors documentaires ou cursives, donc disons des écritures plus informelles, pour faire vite, qui occupent la partie gauche du tableau. Donc toute cette diversification, vous voyez, se manifeste au milieu du tableau, hein, à partir des XIIe et XIIIe siècles. Donc c'est une époque de très grande diversité des écritures, particulièrement le XIIIe siècle, mais en même temps avec des similitudes à très large échelle. On peut trouver à la même date une même écriture ou des écritures très semblables utilisées à Paris ou en Hongrie, hein, sans qu'on ait encore trouvé des explications très convaincantes à ces phénomènes. Hein. Est-ce que la circulation des scribes, la circulation des modèles, quelle est la part de l'imitation, de l'apprentissage, hein, toutes les questions dont on a déjà parlé aujourd'hui se posent d'une manière aiguë pour cette période-là. Mais c'est une période donc que je laisse de côté pour me concentrer sur celle qui va suivre à partir d'environ l'an 1300, hein, quand on voit se former dans la chancellerie de France une écriture documentaire d'un type nouveau. Là non plus, je n'entre pas dans les détails, mais elle se manifeste, cette nouveauté se manifeste aussi bien au niveau morphologique qu'au niveau décoratif et technique. Les éléments de style dont parlait Peter à l'instant sont très importants. Il y a une simplification de tout ce qui formait l'ornementation des écritures solennelles des chancelleries auparavant. Et donc la formation d'un nouveau type d'écriture très homogène qui va, d'un point de vue fonctionnel, servir à peu près à tous les usages documentaires, hein, donc disparition de cette très grande diversité qu'on avait au XIIIe siècle, au profit d'une écriture homogène dont la diversité se limitera à une élaboration, enfin une exécution plus ou moins soignée, hein, selon qu'on a affaire à des documents plus ou moins importants et plus ou moins solennels. C'est l'écriture qui, en France, en un demi-siècle à peu près, devient l'écriture universelle donc pour les usages documentaires et qui, dans la suite du XIVe siècle, et la chose est pratiquement conclue autour de 1400, se répand aussi au-delà des frontières du royaume et est adoptée dans les usages des chancelleries, notamment dans une grande partie de l'Europe. Et c'est sur la base donc, de cette écriture relativement homogène autour de 1400 qu'on va voir se développer une nouvelle diversité de formes. Alors ces développements, qui sont donc essentiellement accélérés à partir du XVe siècle, relèvent de phénomènes divers dans un contexte qu'il faut retracer, ce contexte de la fin du Moyen-Âge, qui est marqué entre autres par le développement accéléré de ce qu'on peut appeler, pour faire vite, les États-nations, et également l'émergence décisive des langues vernaculaires dans leur forme écrite, définissant ainsi des aires culturelles, disons, dans des limites qui, pour certaines d'entre elles au moins, répondent à des limites qui sont aussi étatiques ou, disons, nationales. En même temps, une multiplication encore plus marquée des écritures pratiques de toutes sortes, et en particulier de l'écriture pratiquée par des non-professionnels, hein, avec le développement d'écritures éventuellement d'un niveau plus élémentaire dans l'enseignement. Et tout cela donc contribue à faire que la belle unité hein, de ces écritures très, souvent très disciplinées du XIVe siècle tente à voler en éclats. La répartition linguistique est un phénomène essentiel, me semble-t-il, un facteur essentiel à prendre en compte pour cette époque-là. On a vu, alors pour les périodes précédentes du Moyen-Âge, c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent et dont le cas archétypique est précisément celui que nous venons de voir avec les îles britanniques qui pratiquent une écriture pour le latin et une écriture pour la langue vernaculaire, ce qui ailleurs n'existe à peu près pas. Et donc si on reprend les catégories qui ont été développées par Armando Petrucci, auxquelles Peter a aussi fait allusion, hein, Petrucci dit multigraphisme, je crois. Nous disons polygraphisme pour la cohérence grecque du mot, c'est préférable. Mais donc, je rappelle que Petrucci a distingué un polygraphisme, donc il appelle relatif, c'est-à-dire la pratique de différents types d'écriture au sein d'un même alphabet, hein, et un polygraphisme absolu, qui est la pratique par les mêmes scribes d'écriture relevant d'alphabets, enfin de systèmes d'écriture différents. En réalité, il y a bien des degrés à l'intérieur même de ce qui, en ce qui nous concerne, est un polygraphisme relatif, puisqu'on est au sein de l'alphabet latin. La diversité des écritures va des niveaux les plus subtils, diversité de style simplement, à des diversités plus marquées de type. Et là, on revient sur des questions que nous avons abordées dans la journée d'études précédente. Donc, à partir de quand est-ce que deux écritures subtilement distinctes par le style finissent par constituer deux types différents, hein, notamment par la présence d'allographes particuliers, hein, de lettres qui ont des formes différentes et fixes hein, dans chaque type. Et au-delà, on va à des différences plus fortes, hein, et c'est ce qu'on va observer à partir de la fin du Moyen-Âge, avec des écritures qui tendent à former des sortes de vases clos, qui, si on parlait en termes linguistiques, disons, ne consisterait plus des dialectes, mais véritablement des langues séparées, par la disparition de toute possibilité d'intercompréhension. C'est-à-dire que, je vous en montrerai quelques exemples, les écritures les plus informelles développées par les professionnels de l'écriture entre le XVe et le XVIe siècle sont d'une diversité telle qu'un Espagnol n'arrivera plus à lire une écriture allemande et un Allemand n'arrivera plus à lire une écriture française, hein, indépendamment même de la maîtrise de la langue. Une considération, un facteur essentiel à prendre en compte est certainement celui des échelles de circulation. Là, on peut commencer par distinguer essentiellement le domaine des livres et celui des documents. Les livres, en grande partie, ont vocation à circuler plus que les documents. Et la circulation, à la fin du Moyen-Âge, à partir du milieu du XVe siècle, sera encore démultipliée par l'invention de l'imprimerie, en particulier donc pour tout ce qui sera imprimé en latin, qui a vocation à circuler largement dans les limites de l'Europe occidentale. Pour ce qui est des documents, il y a des échelles différentes de circulation. Il y a certes une circulation internationale, mais limitée à certains types de documents. On pense bien sûr aux actes diplomatiques, à la correspondance, notamment à la correspondance commerciale internationale. Mais il y a des aires de circulation plus limitées et des identités graphiques, pourrait-on presque dire, qui correspondent à des aires précises, notamment dans la sphère du pouvoir, avec des identités graphiques volontairement projetées aussi bien à l'intérieur des limites d'un État que vers l'extérieur. Et je repense à ce que nous avons entendu tout à l'heure sur ce souverain acadien qui s'indigne qu'on puisse vouloir lui écrire en araméen. Aujourd'hui encore, la République française n'écrit qu'en français. Voilà, il y a un rapport évident à la fois entre le pouvoir, la langue et l'écriture. Et donc nous constatons dans la sphère des écrits émanés des différents pouvoirs une discipline collective des clercs, un house style propre soit à une entité politique, soit même à des institutions particulières au sein d'un appareil, disons, administratif, judiciaire, etc. Nous avons, au niveau de circulation le plus restreint, des écritures de professionnels à l'usage des professionnels, qui pratiquement ne sont lisibles que par les professionnels, voire même lisibles uniquement par le professionnel en chair et en os qui a écrit sa minute et qui ensuite la reportera, si tout va bien, au propre dans un registre si elle a vocation à être lue par d'autres. Et donc là, oui, du point de vue des diplomatistes, c'est ce qui distingue donc les minutes, disons, et les expéditions. Donc ce qui est destiné au producteur, pour faire simple, et ce qui est destiné à des lecteurs au-delà. Alors, je reviendrai sur quelques exemples spectaculaires dans cet ordre d'idées. Alors, quelle est la situation autour de 1400 ? Nous avons, alors ici, voilà, les fidèles de nos journées reconnaîtront l'affiche d'une des journées précédentes. C'est une affiche d'un maître écrivain allemand, Johannes von Hagen, du début du XVe siècle, qui illustre la vaste gamme, et ce n'en est qu'une sélection, selon laquelle se déclinent les écritures au sein d'un système qui est celui de l'écriture gothique, disons, et ici dans sa version allemande, germanique. On voit, même sans entrer dans les détails, deux types d'écritures s'opposer assez nettement ici, des écritures plus noires, plus posées, qui sont celles qui sont destinées à l'écriture des livres, plus ou moins soignées, luxueuses et amples, selon les cas. Et puis d'autres plus légères, plus animées, qui sont les écritures donc, que j'appelais tout à l'heure documentaires ou cursives, et dont il existe aussi toute une gamme, plus ou moins sophistiquée, plus ou moins rapide, et qui, du point de vue du professionnel de l'écriture et de ses clients, correspond à une gamme de prix aussi, et des écritures qui demandent plus de travail, plus de temps, et donc plus d'argent. Alors ça, voilà, pour illustrer en gros la situation, la diversité fonctionnelle dans le monde des écritures gothiques autour de 1400, voilà d'un peu plus près une variété de ces lettres, quelques variétés. La grande nouveauté en 1400 et dans les années immédiatement après 1400, c'est en Italie, à Florence, et puis plus largement dans d'autres centres italiens où se diffuse l'humanisme, la réintroduction, la résurrection d'une écriture qui est fondée sur la découverte des manuscrits de l'époque carolingienne et post-carolingienne, en grande partie des manuscrits, disons, italiens des 10e, 12e siècle, et donc le retour à une écriture pré-gothique qui apparaît comme ayant des vertus particulières, notamment de lisibilité. Et donc, on voit naître à la même époque cette écriture-ci, qui est une écriture donc à destination livresque, et qui est donc posée, disons, qu'on appellera l'humanistique ronde, enfin, il y a différents noms, et c'est ce qui est à l'origine de nos caractères d'imprimerie romain. Et puis, en même temps, une écriture cursive, qui techniquement continue dans le sillage de l'écriture cursive gothique, mais qui, morphologiquement, reprend des éléments analogues à ce que nous venons de voir dans l'écriture livresque, c'est-à-dire en particulier un principe général des écritures pré-gothiques, qui est que, pour l'essentiel, une même lettre a toujours une même forme, alors que dans les écritures gothiques, on a au contraire le développement marqué de tendance à l'allographie, c'est-à-dire à des formes de lettres qui varient en fonction de la position du lettre dans le mot ou du voisinage avec telle ou telle autre lettre. C'est ce qui fait que cette écriture-ci, en particulier, se révélera particulièrement adaptée à l'imprimerie, puisque ça simplifiera le travail technique de composition. Donc ça, c'était un exemple précoce. Ici, on a un exemple de la fin du XVe siècle, dans lequel vous voyez alors deux choses, à la fois des capitales romaines, qui sont un autre élément de la récupération d'écriture du passé par les humanistes italiens, et en dessous, donc, cette cursive italienne, italique, qui nous paraît parfaitement lisible par rapport aux cursives gothiques de la même époque. Et on a donc ici des éléments essentiels de l'écriture qui, pour nous, sont l'écriture moderne, avec ses capitales et ses minuscules, qui nous semblent parfaitement lisibles, mais qu'il faut éviter de penser en termes de modernité et d'archaïsme pour l'époque. Il y a d'autres clés de classement dont on parlera, et qui sont en particulier plutôt la facilité et la difficulté d'écriture, qui permettra de distinguer des écritures destinées aux professionnels et des écritures destinées à un usage plus large. Je faisais allusion à l'imprimerie, donc vous avez ici, simplement pour mémoire, les prolongements de ces nouveautés italiennes dans la typographie, à Venise en particulier. Donc en 1470, ici les caractères romains créés par Nicolas Janson et qui sont aujourd'hui encore considérés comme un nec plus ultra de la lisibilité et de la perfection formelle de l'alphabet latin. Et la cursive italique donne naissance à ce que nous appelons les caractères italiques, chez Hall, donc au tournant des 15e et 16e siècles. Alors, ce détour par l'imprimerie s'impose puisque un des facteurs essentiels de l'évolution de l'écriture à l'époque moderne, précisément, et qui distingue cette histoire de tout ce qui a précédé, c'est l'interférence entre l'existence de ces caractères d'imprimerie et ce qu'on continue à écrire à la main. En gros, le domaine des livres est transféré aux imprimeurs, et c'est le domaine des documents, essentiellement, qui va rester le domaine de l'écriture manuelle. Ce qui a pour effet de libérer, d'une certaine façon, l'écriture manuelle de la discipline à laquelle était soumise les scribes en tant que scribes copistes de livres, et qui est sans doute une des raisons pour lesquelles la cursivité et la variété des écritures se démultiplient à partir de cette époque. Alors, autre forme d'interférence entre l'imprimé et le manuscrit. L'imprimé, en même temps, relaie l'écriture manuscrite par l'usage de supports d'enseignement imprimés, c'est-à-dire, plus précisément, de modèles qui sont gravés, d'après des modèles tracés d'abord à la plume par des maîtres écrivains, par des calligraphes. C'est un phénomène qui... Alors, je vais me concentrer essentiellement sur ce matériau-là, puisque ça permet de donner un fil directeur, si vous voulez, dans cette histoire longue et très complexe des écritures de l'époque moderne. Je vais essentiellement prendre mes exemples et examiner l'interaction des écritures à l'échelle européenne à travers ce genre de livres que sont les livres des maîtres écrivains sur lesquels je travaille depuis quelques années, en particulier pour le domaine français. Donc c'est un nouveau genre éditorial qui apparaît autour de 1520, à la fois en Italie et en Allemagne, et qui pose d'emblée des questions intéressantes, enfin, sur lesquelles on peut faire des observations intéressantes du point de vue des degrés d'ouverture variables dans chaque milieu aux écritures de milieux différents. Il faut prendre ces livres à la fois, me semble-t-il, parfois comme réceptacle de modèles exogènes, il y a des auteurs qui montrent un intérêt pour les écritures étrangères, disons, mais aussi comme vecteurs, dans la mesure où ces livres eux-mêmes circulent. Et en particulier, les livres gravés produits en Italie circulent dans toute l'Europe et contribuent à diffuser les nouvelles cursives à l'italienne et à en faire une lingua franca graphique des lettrés d'Europe. Donc ici, tout début des années 1520, ce livre de Ludovico Vicentino, Ludovico Arrighi, qui donne un modèle d'écriture qui est celui de, qu'on appellera de la cursive italique, hein, qui va se répandre très largement en Europe. Si on se transporte aux Pays-Bas en 1540, là c'est une édition un peu plus tardive de 49, mais la première édition de ce livre est de 1540, Gérard Mercator, donc là un flamand, le premier livre d'écriture publié en Flandre, c'est précisément un livre d'écriture à l'italienne, hein, et pas du tout un livre d'écriture à la flamande, c'est-à-dire dans la tradition gothique. Donc là, directement dérivé de ces modèles italiens. Dans les mêmes années, on a, en 1540 justement, un autre livre publié en Italie par Giovan Battista Palatino, dont on voit ici la tête, voilà, Libro Nuovo d'Imparare a Scrivere, etc. Tutte sorte lettere antiche e moderne di tutte nazioni. Donc là, on a vraiment un intérêt un peu encyclopédique, hein, un intérêt frappé au coin de d'une esthétique de la diversité, hein, et de la curiosité. Et le contenu du livre, donc là je vous présente voilà, un exemplaire qui a été dépecé et collé dans un grand album, ça permet commodément de voir beaucoup de pages à la fois. Vous voyez qu'il y a à la fois toutes sortes de styles d'écriture moderne qu'on peut utiliser, hein, et puis d'autres qui sont là, alors aussi bien de type... plus livresque, hein, ici des initiales comme on pourrait en avoir dans un livre de cœur, hein, dans un manuscrit liturgique. Ailleurs, ici, des lettres du Haut Moyen-Âge, hein, lettres lombardes. Ici, des lettres gothiques ornementales, hein, pour les arts décoratifs, mais aussi du grec, de l'arabe, du syriaque, toutes sortes de choses, dans des formes encore parfois approximatives. Et des exemples, donc des écritures contemporaines, en alphabet latin, donc de l'Europe du temps. Ici, une planche qui représente l'écriture française, hein, dans une forme idéale, un modèle parmi d'autres, comme Palatino l'explique. Il explique d'ailleurs d'une manière intéressante que cette forme, pratiquement on a peu de chance de la rencontrer dans la réalité, c'est une forme idéale, mais l'écriture française devant s'écrire très vite, hein, il y a peu de chance qu'elle soit aussi formée que celle qui est ici. Il y a donc là une esthétique de la cursivité, hein, qui est inscrite dans les gènes même de l'écriture à la française. En Allemagne, à la même époque, nous avons les premiers livres publiés par Johann Neudorfer, 1519 déjà, et qui sont caractéristiques de ce que sera l'école allemande, précisément par une concentration sur ce qui intéresse les Allemands, hein, de l'écriture gothique, et pas grand-chose d'autre avant le XVIIe siècle. Dans des formes extrêmement sophistiquées, hein, une écriture gothique extrêmement calligraphique et qui est prodigieusement bien gravée ici, hein, dans des planches gravées sur bois. L'Allemagne, j'en parlerai à plusieurs reprises, c'est un des cas les plus intéressants puisqu'on a dès le début, enfin, dès autour de 1500, disons, une connexion, un lien très explicite et très étroit entre la langue, le pouvoir et l'écriture. Les modèles de l'écriture allemande tels qu'ils émergent autour de 1500 pour l'usage commun et en particulier pour la typographie sont empruntés directement à l'écriture de la chancellerie impériale du temps de Maximilien. Donc là, il y a un rapport direct avec le pouvoir politique. Et ce qui est très frappant en Allemagne, c'est que le gothique sera utilisé pour tout ce qui est allemand, mais dans un même texte, si vous avez des mots qui sont latins ou d'origine latine, d'une langue romane quelle qu'elle soit, ils seront écrits en caractère italique. Et donc là, on a une distinction qui apparaît, par exemple, dans ce manuscrit du XVIe siècle. Donc vous voyez un manuscrit en gothique très cursive, où ressortent en italique les mots « advocaten »,« doctor advocaten », »,« jurament », etc. Donc des mots passés en allemand, mais d'origine romane, hein, et qui, de ce fait, sont traités graphiquement d'une manière particulière. Et ça, c'est le cas jusqu'au XXe siècle. Hein. C'est une règle qui a été appliquée, y compris... Ici, c'est un cas où le mot entier est en caractère italique. Plus tard, on trouvera des mots dont le radical roman ou latin est en caractère italique et la terminaison germanique, orientieren, par exemple, ou ici, advocaten, le en final serait en gothique. Voilà, avec des distinctions à l'intérieur même du mot. Et donc, toute l'histoire d'une grande partie des écritures de l'époque moderne consiste dans les modalités de coexistence entre les écritures d'origine italienne et les écritures d'origine gothique, nationale, particulièrement en France et en Angleterre, où on a à la fois deux filons parallèles et des interférences fréquentes entre l'un et l'autre. Dans d'autres pays, en Espagne, on passe à un modèle beaucoup plus italien, avec des particularités espagnoles, mais essentiellement C'est très italianisé. Et l'Allemagne présente le contre-exemple donc, d'un pays qui reste attaché à sa tradition gothique jusqu'en 1941, hein, quand l'écriture gothique sera abolie. Alors, un des effets de ces interférences constantes, c'est de démultiplier encore les formes possibles de l'écriture latine. Et voici un exemple donc, tiré d'un maître écrivain anglais, John Smith, je ne sais pas si c'est un de mes ancêtres, il y a peu de chance, de 1683, où vous voyez des formes qui sont à la fois des formes gothiques, des formes italiennes et des formes qui sont toutes sortes d'hybridations entre les deux, avec des distinctions, là aussi il faudrait 2 heures pour entrer dans le détail, des distinctions qui sont morphologiques, avec des formes de lettres différentes, des ductus différents, hein, des façons complètement différentes de former telle et telle lettre, mais aussi des éléments de style et de technique typiques, hein, de la tradition gothique ou d'éléments plus italiens. Et donc je parlais tout à l'heure des écritures des professionnels, hein, au sein de cette nébuleuse d'écriture, dont seulement les formes les plus disciplinées sont enseignées par les maîtres écrivains en général. Il faut voir au-delà qu'il y a dans la pratique des professionnels des écritures extrêmement échevelées. Hein. Alors celle-ci est encore relativement raisonnable. Hein. Quand on a l'habitude des écritures gothiques allemandes, ça se lit fort bien. En avançant dans le temps, on a des écritures de plus en plus cursives et échevelées, donc je disais, en particulier dans la première moitié du XVIIe siècle, voilà un exemple français, hein, qui est illisible pour qui n'est pas français, et même pour beaucoup de français, hein, c'est, pour le lire, il faut être notaire ou greffier de justice, et à la même époque, une écriture espagnole, aussi illisible pour qui n'est pas espagnol, et aussi bien en France qu'en Espagne, d'ailleurs, il y a des mesures législatives contre ces écritures, hein, qui sont vraiment considérées comme illisibles, même par les contemporains. Alors la France constitue vraiment un cas d'école, en partie, j'ai dit, comparable à l'Angleterre, hein, par la façon dont ces écritures coexistent. Mais en France, me semble-t-il, la tradition nationale d'écriture est plus encore liée au pouvoir monarchique. Et l'introduction des formes à l'italienne, donc, est très nettement canalisée. Hein. Les écritures italiennes s'imposent surtout dans le domaine des écritures privées, de l'écriture littéraire, linguistiquement d'abord dans le latin et l'italien qui est largement pratiqué évidemment dans les cours, et seulement ensuite petit à petit dans l'écriture du français. Et pour tout ce qui est des formes d'hybridation aussi, il faut surtout regarder vers les écritures privées ou littéraires. Dans les écritures institutionnelles, on aura plus nettement l'écriture française qui garde sa pureté, disons, où ne s'introduisent que très lentement des éléments d'influence italienne. Et donc, il faut tout à fait distinguer, hein, les écritures individuelles et les écritures institutionnelles. Les débuts de l'écriture italienne en France, on peut les suivre, ça a été étudié pour notre bénéfice. C'est très lié à François Ier. Voici le premier manuscrit, apparemment, dans lequel on trouve une écriture à l'italienne pour transcrire un texte en français. C'est un manuscrit de François de Moulin, qui est le précepteur précisément du petit François, avant son accession au trône, François d'Angoulême donc. Et c'est au début du règne de François Ier qu'on voit apparaître les premiers livres français imprimés en langue française et en caractère romain, et non plus en gothique. Et c'est certainement lié au fait que dans les mêmes années, François Ier est candidat à la couronne impériale, et qu'il présente donc là, je parlais en termes d'identité graphique, une sorte de version latine de l'Empire face à l'Empire romain germanique, hein, incarné dans les caractères de la chancellerie de Maximilien. Et du point de vue technique, dans l'imprimerie, c'est tout à fait intéressant à observer, on voit très bien comment la transition provoque quelques chaos. Là, on n'est pas dans les toutes premières années, on est déjà en 1537, alors que les premières impressions sont d'avant 1520. Mais vous voyez qu'ici, on a encore un problème technique. On a un livre imprimé en français en caractère romain. Vous voyez que le problème, c'est que dans la casse des imprimeurs qui ont des caractères romains pour imprimer du latin, ce qui manque, c'est des Z. Hein, il y a extrêmement peu de Z. Dès qu'on imprime du français, on tombe en panne sèche de Z. Voilà. Avant qu'on adapte la casse. Et donc, résultat, vous avez des livres comme ça imprimés en caractère romain dont les Z sont gothiques. Hein, on les a pris dans la casse d'à côté. Puisqu'on n'avait pas le matériel nécessaire. Et donc, là-dessus, j'en viens précisément à la naissance en France des écritures, des livres d'écriture dont j'ai parlé, hein, ces livres de modèles gravés, avec les tout premiers maîtres français qui en publient bien plus tard qu'en France, qu'en Italie et qu'en Allemagne, puisqu'il faut attendre le début des années 1560. Il y a un maître qui s'appelle Pierre Hamon, qui a une biographie courte et passionnante, dont je pourrais vous entretenir, mais enfin, il a fini sur le bûcher, apparemment, pendu, pour avoir trop bien imité la signature du roi, semble-t-il. Ces premiers livres, donc, présentent d'emblée une structure qui va être celle des livres d'écriture français pendant deux siècles, qui est une section d'écriture à la française, une section d'écriture à l'italienne, hein, donc les deux vraiment bien distincts. Ici, dans une édition de 1573, d'un livre qui a d'abord paru en 1564, l'alphabet de plusieurs sortes de lettres, dans lequel vous voyez toute une gamme d'écriture à la française, la lettre naturelle française, donc une lettre documentaire posée, la lettre mignarde, beaucoup plus ornée, et puis, ça c'est tout à fait exceptionnel, la minute, et ça c'est le seul exemple que je connaisse sur au moins les deux premiers siècles des livres d'écriture, où on présente comme idéal à atteindre, c'est la dernière planche des écritures françaises, une écriture totalement informelle et échevelée, hein. Et vous voyez, ça recoupe ce que disait Palatine sur l'écriture française. L'écriture française doit être rapide. Et le professionnel le plus habile, c'est celui qui produit cette écriture à la fois admirablement rythmée et difficilement lisible, hein, pour qui n'est pas habitué à ce genre d'écriture. Donc ça, c'était la section française. La section italienne, lettres italiques, voilà, hein, présente aussi toute une gamme d'écriture soit fonctionnelle, soit plus décorative, qui vise surtout à montrer la virtuosité du calligraphe. Voilà. Alors, je disais, le cas français et le cas anglais sont analogues. Du point de vue des livres d'écriture, c'est d'autant plus net que, pour ce qui est du début, des premières publications, le premier livre d'écriture publié en Angleterre en 1570, dont vous voyez ici un des deux exemplaires survivants, a été publié précisément par un Français, par Jean de Beauchesne, maître huguenot, hein, exilé, et qui présente... Alors, ça pose une sorte de problème bibliographique intéressant, parce que vous voyez, le livre est signé par Jean de Beauchesne et John Baildon, dont on ne sait pas très bien comment ils se sont répartis les rôles. J'ai tendance à penser que Baildon a été responsable des écritures à l'anglaise, écriture institutionnelle très caractéristique des institutions anglaises, comme c'est gothique, presque caricatural, hein, dans l'accentuation des pleins et des déliés, et que Beauchesne aura été responsable des écritures à la française, ici très proche de Hamon, lettre d'État, et des lettres italiennes, maiuscole cancellaresque. Donc là, on voit en Angleterre une tripartition, hein, écriture anglaise, française, les gens bien nés en Angleterre parlent et écrivent le français, et des écritures donc à l'italienne aussi, qui ont aussi une valeur donc internationale. Oui, alors autour de 1600, par rapport à toute la diversité des écritures qu'on constate au XVIe siècle, qui est liée à une surenchère de virtuosité entre les maîtres aussi, on constate autour de 1600 un resserrement, une discipline plus marquée, qui réduit les types, pour ce qui est des écritures françaises, à deux formes essentiellement. Une qui est celle qu'on appelle l'écriture de finance ou l'écriture ronde, qui est l'écriture dans la tradition française gothique, hein, mais moins gothique, un peu plus arrondie, plus aérée. Et puis l'écriture italienne, cette nouvelle version de l'écriture italienne empruntée aux maîtres les plus récents de l'art d'écrire en Italie, avec ces petites gouttes d'encre, hein, caractéristiques de l'esthétique de l'écriture de la fin du XVIe siècle. Voilà, d'un peu plus près. Ce qui est par ailleurs intéressant à noter et qui semble se développer aussi à cette même époque, c'est une diversification, en revanche, des écritures plus explicitement fondées sur des paramètres sociaux, hein, donc une sociomorphologie des écritures, avec en particulier l'idée qu'il y a des gens qui sont des professionnels et d'autres qui doivent pouvoir écrire bien, mais qui n'ont pas de temps à perdre avec un enseignement aussi poussé, et qui sont en particulier, c'est ce que vous voyez ici, bâtarde italienne, fort propre pour gentilhomme, hein, donc les nobles n'ont pas de temps à perdre avec l'écriture gothique des professionnels, et lettres fort propres pour dames. Hein, donc différenciation ici même entre écriture d'homme et écriture de femme. Il y a un autre, ça c'est en 1600, et un autre livre peu après, 1608, qui présente un modèle, c'est Lucas Matro, qui présente un modèle, lettre facile à imiter pour les femmes. Hein, donc là, il est vraiment explicite que c'est une écriture qui s'apprend en moins de temps, hein, pour des usages pratiques, mais pas pour du travail professionnel. Et cette différenciation sociologique des écritures, on peut la constater ne serait-ce que qu'à travers des signatures. Vous avez ici un acte qui a été signé par des dizaines de personnes qui vont du prince à des gens nettement plus bas placés dans l'échelle sociale, hein, mais qui sont quand même des magistrats, des bourgeois, etc. Et vous voyez une gamme d'écritures qui se distingue à la fois par la morphologie et par les dimensions. Vous voyez que les signatures les plus hautes sont très allongées, sont celles des grands princes, et en même temps, elles sont en écriture italique, précisément. Hein, c'est l'écriture pour gentilshommes. Et donc, ce paysage français contraste avec ce qu'on trouve dans d'autres régions d'Europe, qu'on peut définir comme des régions carrefour, hein, où il y a un intérêt plus marqué pour ce qui se fait au-delà des frontières d'une ère culturelle donnée. C'est en particulier les Pays-Bas, hein, qui sont vraiment au carrefour linguistique et graphique entre les pays germaniques et les pays latins. Et on a donc quelques livres, je vous illustre ça à travers deux ou trois livres, parus tous en 1594. Ici, Théodore Boissens, vous voyez le titre « Promptuarium, hein, Variarum Scriptorarum », donc « Promptuaire de diverses écritures », « Ex quo Latini, Italii, Galli, Hispani, Germanici, Angli, Belgae, quae vernaculae, sue scriptionis proprietatem et formationem de promere possunt ». Donc, livre dans lequel les gens de tous ces pays peuvent apprendre leur propre écriture. Hein. Donc là, il y a à la fois une curiosité, comme chez Palatino, et en même temps l'idée, sans doute, d'un marché international, hein, sur lequel on peut écouler un livre comme celui-là. Autre livre de la même date d'un autre flamand, Ondius, Theatrum Artis Scribendi, Variarum Summorum Nostri Seculi Artificum Exemplaria, etc. Donc ça, c'est un recueil d'exemples des grands maîtres du temps. Il y a déjà l'idée d'un panthéon des meilleurs calligraphes de tous les pays, hein, qui sont réunis dans ce livre-là. Et puis là, même en Allemagne, alors on commence à trouver des planches qui représentent des écritures étrangères. Il y avait déjà des écritures italiennes. Mais là, en 1594, toujours à une Köstliche Schatzkammer, et on voit, entre autres, une planche intitulée « Une écriture française », qui est en fait une écriture italienne. Hein. Donc on voit aussi comment tout ça s'interpénètre. Il est allé prendre dans des modèles français des écritures d'écriture italienne telles qu'on les utilise en France. Hein. Donc vous voyez comment tout ça circule. Encore une fois, le cas français est particulier en ce que les maîtres français se concentrent vraiment sur la France et on voit pratiquement rien d'étranger circuler dans l'écriture française à part les modèles italiens. Et les choses se concentrent encore plus à partir de 1632-1633 quand le Parlement de Paris, trouvant que les écritures du temps deviennent vraiment trop difficiles à lire, hein, on pense à ce qu'on a vu tout à l'heure, ordonne une réforme des modèles et ordonne de limiter tout l'enseignement à deux modèles, un pour l'écriture à la française, un pour l'écriture à l'italienne. C'est ce qui est publié dans les modèles des années suivantes, en particulier donc dans ce grand recueil magnifique In Plano de Louis Barbe d'Or, qui présente donc l'écriture financière dans sa naïveté, c'est-à-dire l'écriture française, hein, avec sa déclinaison en minuscules, majuscules et écriture d'apparat pour les titres. Hein. Donc, c'est la variété que vous voyez au milieu. Donc voilà quelques exemples avec une ornementation aussi extrêmement typique de cette époque du classicisme calligraphique français. Alors des variations plus ou moins cursives, hein, ici plus posées, la plus rapide, mais sur des bases morphologiques communes. Et puis deuxième partie, toujours la même structure, l'écriture italienne bâtarde. Et donc là, on a le modèle à l'italienne basé sur un modèle unique. Hein. Et donc ça, c'est... voilà les modèles qui circulent à cette époque-là. Et Barbe d'Or, en particulier, est exceptionnel en ce que, à la fin de son grand recueil, il ajoute aussi quelques planches d'écriture qui ne sont pas françaises. Il y a des écritures flamandes, allemandes, anglaises, etc. Ce qui est intéressant, c'est de constater combien ces écritures sont à la fois parfaites formellement, dans la calligraphie et la gravure, et en même temps présentent vraiment un accent français. Ce n'est pas une écriture allemande écrite par un Allemand. Dans l'ornementation, dans les proportions, hein, il y a vraiment quelque chose de très français. Et c'est pareil pour ces autres modèles étrangers. Voilà, dernière étape de la formation de la typologie classique des écritures françaises, qui va durer jusqu'au début du XIXe siècle, c'est l'apparition au début du XVIIIe siècle d'un troisième type, qui est ce qu'on appellera la coulée, qui répond à la nécessité d'une écriture plus rapide et plus légère que la bâtarde, qui était quand même un peu trop formelle pour les usages courants et qui d'ailleurs a été très rapidement déformée. Et donc c'est cette tripartition qu'on trouve, je disais, jusqu'au XIXe siècle comme caractéristique de l'écriture française. Ici, vous en avez les modèles par l'imprimerie nationale au début du XIXe siècle. Les trois ont été réduits en forme typographique, la coulée, la bâtarde et la ronde. C'est vraiment la tripartition classique. Et donc, si j'insiste un peu sur les écritures françaises aussi, c'est qu'au XVIIIe siècle, siècle de la civilisation française qui se répand dans toute l'Europe, il y a un intérêt qui est lié alors, à l'apprentissage, la diffusion de la langue française, certainement, bon, et puis tout le reste, les châteaux français, les jardins français, etc., depuis Louis XIV. Et un des plus gros succès de librairie internationale de l'époque, c'est évidemment l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dans laquelle il y a entre autres une section sur l'écriture, écrite par Charles Paillasson, grand maître écrivain. Bon, il n'a pas un nom très glorieux dans ses sonorités, mais c'est un grand homme dans son art. Et il produit donc cette petite introduction à l'écriture avec quelques planches, 16 planches, dans laquelle on voit à nouveau les différentes écritures, deux rondes, avec les différents niveaux à la fois de dimension et de cursivité, la bâtarde, les bâtardes et les coulées. Et ce livre est directement le support d'une diffusion de ces modèles à l'étranger par la diffusion de l'encyclopédie et même par des reprises directes. Il y a une traduction italienne du livre de Paillasson. Il y a une adaptation polonaise même, tout à fait extraordinaire, en quelques planches, petit livre très modeste, fait par les jésuites de Varsovie, qui présente un seul type d'écriture, la bâtarde. On voit ce qui est le plus utile directement. Et voilà. Donc, ce qu'on constate au XVIIIe siècle, cette diffusion plus large des modèles français, à la fois par des supports français d'origine, mais aussi par des maîtres étrangers qui fournissent des livres à des élèves qui apprennent le français et qui ne pourraient pas écrire le français en gothique, c'est impensable. Donc il faut apprendre l'écriture française avec le français. Les livres allemands en particulier, il y en a un certain nombre, sur l'écriture française, qui présentent vraiment un accent allemand très marqué, dans le décor et dans les formes. Ici, on a une planche qui montre les majuscules allemandes et les majuscules françaises. Les majuscules allemandes ont reçu un décor qui se veut d'inspiration française, qui est absolument hideux, qui esthétiquement n'est plus ni allemand ni français. Et les lettres prétendument françaises en bas sont aussi quelque chose qui serait considéré comme extrêmement maladroit et disgracieux par un maître français. Alors, dernière étape, c'est ce qui va bouleverser le système pour toute l'Europe autour de 1800, c'est l'attaque des écritures anglaises. Alors, les Anglais étaient toujours restés une province, disons, du continent, graphiquement. Ils s'inspiraient de modèles, notamment français et de modèles hollandais, mais au XVIIIe siècle, ils créaient leur propre mélange, leur propre combinaison d'éléments de style et de morphologie empruntés à toutes ces écritures. Et c'est ce qu'on voit dans des livres comme celui-ci, dans lequel vous notez le contraste entre deux types d'écriture particuliers. Alors, c'est le Tutor to Penmanship de John Ayres, 1695, dans lequel vous voyez une écriture qui a des pleins et des déliés extrêmement dessinés et posés, qui est en fait empruntée telle quelle à la bâtarde française. L'ornementation ici est empruntée entièrement à des maîtres français du milieu du XVIIe siècle. Il y a quand même un retard chronologique dans le décor. Et ici, une écriture très différente, avec ces sortes de boucles ancrées, qui est une écriture à l'italienne telle qu'on l'a stylisée essentiellement aux Pays-Bas. Donc vous voyez les circulations. C'est le type d'écriture qu'en Angleterre on appelle une écriture à l'italienne, mais qui est en fait une écriture hollandaise. Et voilà, tout ça juste en passant pour rappeler que les Anglais continuent en même temps à faire leurs écritures institutionnelles gothiques, hyper gothiques, qui ont perduré très largement jusqu'au XVIIIe. Et le résultat, c'est donc la naissance de cette écriture qui, pour nous, est tout à fait familière, qui est restée un archétype des écritures formelles jusqu'à nos jours, en particulier sur les cartons d'invitation, de mariage, etc. Voilà, c'est l'anglaise telle qu'on la connaît. C'est ce qu'on voit ici, combiné avec des écritures néo-gothiques, qui sont aussi propres à l'école anglaise. Ça, c'est un livre particulièrement intéressant, de 1756, Joseph Champion, qui est un grand maître de l'époque, puisque, vous voyez, ça s'appelle « Le parallèle » or « Comparative Penmanship Exemplified », in four the greatest original foreign masters, Lucas Mattereau, Louis Barbe d'Or, Jan van Velde and Ambrose Perling. En fait, il reprend des modèles français, de deux grands maîtres français et de deux grands maîtres hollandais. Il les copie à la perfection. Ici, il y a une planche imitée de Barbe d'Or, donc. Ensuite, il les adapte et les anglicise dans le style. Il dit « voilà ce que je ferais si je devais faire ça à l'anglaise ». Et troisième étape, le même texte en anglais, hein, dans une écriture entièrement à l'anglaise. Et donc, on voit bien se former là, vraiment, l'idée d'une nouvelle écriture dont les racines sont tout à fait explicites. Et donc, cette écriture à l'anglaise, elle se répand sur le continent. Et là encore, il faut invoquer le contexte du temps, puisque, et surtout les aspects fonctionnels de cette écriture, puisque c'est une écriture qui est essentiellement destinée au commerce. Et là, il y aurait tout un discours à faire sur les publics auxquels s'adressent ces livres. En Italie, les secrétaires. En France, en gros, ceux qui veulent trouver un travail dans l'administration royale. Et en Angleterre, c'est destiné au commerce. Et c'est le commerce, précisément, par son caractère international et par la facilité, rapidité et lisibilité exigée de l'écriture, hein, qui donne naissance à ce type qui va se répandre très largement en Europe. Et donc, on le voit dès les années 1780, s'introduire dans des copies. Alors ici, une copie par un maître français qui m'est cher, François-Nicolas Bédigy, écriture encore très approximativement à imiter de l'écriture anglaise. Ça, c'est dans les années 1780. Et puis là, dès 1783, dans un livre portugais, hein, une page de titre qui paraît très anglaise. Les proportions sont un peu plus condensées à la manière ibérique, mais l'écriture, cette écriture très contrastée, très fine, hein, qu'on a ici, c'est une écriture à l'anglaise. Et même l'usage du néo-gothique, là, montre vraiment le... Et on voit très clairement l'importance là, des rapports commerciaux, évidemment, entre le Portugal et l'Angleterre, hein, qui ont l'importance que l'on sait. Ça fait longtemps qu'on boit du Porto en Angleterre. Un des cas les plus intéressants, un livre rare que j'ai eu la chance de trouver récemment, c'est un livre publié en Suède par un maître écrivain qui s'appelle Beckmann et qui a toute une intéressante introduction où il explique... Les autres pays ont chacun leur écriture, les Suédois écrivent n'importe comment. Et donc je vais fournir, il dit, donc les Anglais ont leur écriture, les Français, les Italiens, etc. Et donc, voilà, dans ces Grunderne til Skriftkunsten, il y a quatre modèles. Le modèle, il les appelle, il prend pas de risque, hein, dans les connotations, il les appelle écriture cursive numéro 1, écriture cursive numéro 2, écriture cursive numéro 3, écriture cursive numéro 4. Si on revient, l'écriture cursive 1, c'est la bâtarde française. L'écriture cursive 2, c'est l'anglaise. L'écriture cursive 3, c'est la coulée française. Et la bâtarde et la coulée, il les a prises chez Paillasson. Hein, ces planches sont vraiment inspirées directement de celles de Paillasson. Et en dernier lieu, une gothique allemande, hein, puisque la gothique allemande, au-delà de l'Allemagne, a servi pour d'autres langues germaniques et scandinaves. Puisqu'elle a été utilisée au Danemark et en Norvège, hein, en Suède c'est plus partagé. Voilà donc un cas exemplaire, me semble-t-il, de cette diffusion et cette circulation internationale des écritures. Et donc, autour de 1800, on voit vraiment une invasion de l'écriture anglaise sur le continent, à travers des livres comme celui-ci, qui sont, là c'est la première fois qu'on publie à Paris un livre qui est la traduction, l'adaptation telle quelle du livre d'un maître anglais, hein, et pas de copie faite par un maître français. Donc ce Whitcroft qui a eu un grand succès, donc là 1812, et puis les maîtres français s'y mettent en même temps, vous voyez, écriture anglaise démontrée par principe, 1813. Au-delà, ce qu'on constate plus ou moins, c'est une sorte de dissociation finalement entre les langues et les écritures, avec l'anglaise qui devient, je disais, la lingua franca graphique de l'ensemble de l'Europe, avec des particularités comme en Italie, en particulier au Piémont, hein, qui a toujours été une région très française de l'Italie. On a un certain nombre de livres qui sont publiés, qui sont très marqués par les modèles français, et en même temps importent des modèles à l'anglaise. Ici, vous avez ce Giuseppe Savant, hein, qui a publié un certain nombre de choses à Turin, Modelli per imparare la bella scrittura, c'est de la bâtarde. C'est quelque chose d'hybride entre la bâtarde française et l'anglaise. Vous voyez le P ouvert, hein, c'est vraiment le P de l'anglaise que nous avons tous appris à l'école primaire. Donc là, c'est essentiellement de l'anglaise, mais avec de la ronde française en dessous, etc. En Italie, évidemment, il y a tout l'impact aussi de la conquête napoléonienne, hein, qui a imposé dans l'administration italienne des modèles à la française. Et finalement, ce qui est frappant, c'est de voir comment, à travers toute cette variété d'écritures, y compris les écritures bâtardes, coulées, etc., c'est d'un point de vue stylistique et technique, hein, l'anglaise qui imprime sa marque de plus en plus partout. Ici, vous avez un livre allemand qui présente des modèles à la française, dont la ronde, vous voyez, est allégée et marquée par des pleins et des liés qui sont produits par des effets de pression sur une plume pointue, qui en fait, techniquement, répondent au mode de l'anglaise. Hein. C'est morphologiquement de la ronde française, mais techniquement, c'est déjà largement de l'anglaise. Et en dernier lieu, donc, ah oui, simplement un mot sur cet auteur Heinrichs. Il est exemplaire de l'évolution générale, puisqu'il publie ses premiers livres autour de 1810, et il fait un livre à la française, un livre à l'anglaise, un livre à l'italienne. Et à mesure qu'il avance dans sa carrière, jusque vers 1850, il fait de plus en plus l'écriture allemande, l'écriture anglaise, l'écriture allemande, l'écriture anglaise. Donc on voit comment c'est vraiment l'anglaise qui l'emporte là aussi. Et donc on a la formation, si vous voulez, d'une Europe progressivement bipartite, hein, où il y a l'anglaise et puis les écritures gothiques, essentiellement germaniques. Et cela donc jusqu'au XXe siècle, puisque le Danemark n'a abandonné l'écriture gothique qu'en 1875, et l'Allemagne, comme je disais, en 1941. On associe souvent la gothique et le nazisme, on oublie que ce sont les nazis qui ont aboli la gothique, au terme d'un débat qui avait duré un demi-siècle. Et donc aujourd'hui, il reste des traces, malgré tout très ténues, de nos diversités historiques, même au terme de cette unification. Si on regarde les deux modèles qui ont été diffusés par le ministère de l'Éducation nationale depuis 5 ans, là, qui s'appellent, alors c'est comme les cursives 1, 2, 3, 4 de Beckmann, là c'est le modèle A, le modèle B, hein, on ne met pas de nom. Et en réalité, si on regarde la structure de ces lettres, en particulier un certain nombre de lettres distinctives, ce qu'on a ici, c'est une version extrêmement simplifiée de l'anglaise, hein, avec ses boucles, avec les formes caractéristiques notamment du F et du R, hein, qui nous rappellent aussi nos souvenirs scolaires. Et puis le deuxième type, type B, qu'est-ce que c'est? C'est de la cursive italique du XVIe siècle, hein, avec la forme caractéristique de son F, le G ouvert, le R droit, etc. Et donc voilà, ce qui est très curieux, c'est qu'on n'arrive pas à réinventer autre chose aujourd'hui, hein, qu'on continue à repuiser dans ce passé historique, en l'adaptant tant bien que mal aux conditions techniques d'aujourd'hui précisément. Là, on n'a plus de plein et de délié. Mais voilà, donc c'est le terme de cette histoire dont on espère qu'elle ne soit pas tout à fait terminée. Mais voilà d'où viennent, en quelques mots, nos écritures scolaires, hein, nos modèles actuels. Merci.